Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, même si la semaine en France a été très chargée, très politique, nous allons quand même faire notre tour du monde en évoquant 7 jours d'actualité et d'autres scrutins d'ailleurs. Ce qui ne va pas nous empêcher de revenir sur les conséquences de la déroute socialiste aux élections municipales. D'ailleurs, écoutez François Hollande lundi soir à la télévision.
Je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message, parce qu'il est clair. Pas assez de changements, encore trop de lenteur, pas assez d'emplois, encore trop de chômage, pas assez de justice sociale, encore trop d'impôts, pas assez d'efficacité dans l'action publique, et donc encore trop d'interrogations sur la capacité de notre pays à s'en sortir alors qu'il a tant d'atouts. Je n'oublie pas aussi les Français qui se sentent abandonnés quand ils ne sont pas eux-mêmes relégués. Le message que vous m'avez adressé, je le reçois et je dois donc y répondre. Et je vous le confirme, ici, parce que c'est l'essence même de ma tâche. Le redressement du pays est indispensable. Le redressement de notre appareil productif, de nos comptes publics et de notre influence en Europe et dans le monde.
Nous reviendrons bien sûr sur la formation du nouveau gouvernement dirigé par Manuel Valls, le nouveau Premier ministre. Après le flash, rendez-vous également avec l'actualité africaine et vos messages. Samedi 5 avril, une semaine d'actualité, nous sommes en compagnie d'un expert des relations internationales, Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po et auteur d'un nouvel essai, Le temps des humiliés, pathologie des relations internationales, publié chez Odile Jacob. Bonjour Bertrand Badi.
Bonjour.
Ainsi, les États souffrent-ils de pathologie ?
Bien sûr, pourquoi en serait-il dispensé, hélas ? Vous savez, la pathologie, c'est pas seulement ce qu'un individu doit subir, c'est aussi ce que les collectivités doivent subir. Et peut-être ne sait-on pas les expliquer suffisamment clairement. C'est un petit peu dans ce sens que j'ai écrit ce livre.
Alors, on va évidemment en reparler, Bertrand Badi, mais commençons notre tour du monde en parlant de la future force européenne qui doit se déployer en Centrafrique. On soutient donc à la force française, Sangaris, et à la MISCA. Ses objectifs, d'abord l'aéroport de Bangui et 2 arrondissements de la capitale. Écoutez ce que disait mercredi le commandant de cette force, général Philippe Ponty.
Il faut pouvoir assurer cette sécurité jour comme nuit pour permettre aux gens de relancer leurs activités, notamment les activités économiques, et pour pouvoir aussi leur permettre de s'établir durablement dans leur maison, dans leur quartier. Alors ça suppose effectivement que le niveau de sécurité soit établi de jour comme de nuit, que ce soit un niveau de sécurité suffisamment élevé pour qu'ils aient confiance et qu'ils reviennent. Concentrer l'action de 800 soldats sur ces 2 arrondissements, le 3e et 5e, et sur l'aéroport d'Mpoko, sur une durée de 6 mois, ça peut permettre d'obtenir, en termes, encore une fois, de sécurité et de reprise des activités, des résultats significatifs. Mais l'idée, c'est bien de mettre en place, de créer les conditions de mise en place de ces mécanismes-là, notamment de développement à court, moyen et long terme, d'action humanitaire, pour que ces deux secteurs, le moment venu, puissent être regardés vraiment comme des secteurs pilotes et puissent servir en quelque sorte d'exemple à ce qu'on pourrait étendre aux autres districts de la ville de Bangui ultérieurement.
Propos recueillis par Boniface Vignon.
7 jours dans le monde.
Autre chose, autre destination avant de vous retrouver, Bertrand Badi, la Turquie. Comme en France, il y avait dans ce pays des élections municipales dimanche dernier. Grand vainqueur, l'AKP, le parti du Premier ministre Erdogan, notamment dans la capitale. Reportage de notre correspondant Jérôme Bastion.
Dans sa petite épicerie de quartier, Ramazan salue la stabilité politique et la croissance économique amenée par le gouvernement AKP.
Notre Premier ministre a rendu de grands services au pays, des services qui ne cessent d'augmenter, et c'est pour cela qu'on le soutient. Par exemple, quand il y a 12 ans, il n'y avait qu'un nombre très faible d'utilisateurs d'Internet. Aujourd'hui, il y en a des millions. D'ailleurs, il n'y avait même pas un ordinateur dans chaque maison à l'époque. Mais maintenant, chacun en a un en poche.
herkesin cebine girmiş durumda.
La censure du net, c'est normal car il n'y a pas de liberté totale quand on touche à la sécurité de l'État ou à la vie privée, dit-il. Autre chose à mettre au crédit de M. Erdogan, il a redoré l'image de la Turquie.
Depuis qu'Erdogan est Premier ministre, la place de la Turquie dans l'ordre du monde a bien changé, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit en Europe. Sa perception a beaucoup évolué. Avant, l'extérieur nous regardait comme un pays du tiers ou du quart monde. Mais maintenant, c'est fini.
Alors, pas question de changer.
Il reste tant de choses à faire pour améliorer les conditions de vie, la croissance économique, les services publics, plus de prospérité, plus et mieux, quoi. Par exemple, nous sommes un pays qui envoie un satellite dans l'espace tous les 2 ou 3 ans. Et c'est pour cela qu'on l'aime et qu'on lui fait confiance.
Jérôme Bastion, à Istanbul, la ville aux 4 millions d'électeurs AKP, RFI.
Vous écoutez RFI, vous avez raison, une semaine d'actualité. Nous sommes donc en compagnie de Bertrand Badie. Le temps des humiliés, c'est le titre de votre livre, Bertrand Badie. Là, vous avez entendu, ce Turc parlait de son contentement de voir la Turquie à nouveau sur le devant de la scène internationale.
Oui, de voir la Turquie qui jouait en seconde division, ça a été dit par notre interviewé, et qui maintenant s'affirme comme puissance, c'est-à-dire gagne un statut. L'exemple turc est très intéressant parce qu'un personnage comme Erdogan peut ici choquer par sa brutalité, quelquefois aussi par ses exagérations verbales, voire pratiques et politiques.
Il faut rappeler donc ces histoires de censure en ce moment sur Twitter,
voilà,
Facebook,
voilà,
et autres réseaux sociaux.
Il évoque d'un certain point de vue la personnalité d'un Poutine, mais Poutine comme Erdogan en Turquie sont des personnalités qui gagnent en popularité auprès d'une société et d'une société qui a profondément souffert de la manière dont elles ont été, l'une et l'autre, la société russe et la société turque, au passé impérial, marginalisées, reléguées, rejetées, méprisées d'un certain point de vue. Et je crois que pour bien comprendre la politique internationale, il faut rehausser l'importance de ces paramètres sociaux, de ces sociétés blessées dans leur amour propre. Il suffit de voir ce qu'a été l'agonie de l'Empire ottoman au XIXe siècle, les défaites qu'il a eu à subir à la suite de la Première Guerre mondiale, et puis plus récemment, la manière incroyable dont la Turquie a été traitée par l'Union européenne. Tous les qualificatifs, tous les jugements à l'emporte-pièce qui, en quelque sorte, ont poussé hors d'Europe un État, un pays qui sincèrement voulait y adhérer. Nous vivons et nous payons d'un certain point de vue assez cher, nous paierons de plus en plus cher cette attitude quelque peu arrogante. Mais au-delà même de l'arrogance, je pense qu'il y a une mauvaise vision de la politique internationale. Nous sommes dans le monde, nous ne sommes plus dans l'Europe. Et dans ce monde, nous ne pouvons pas distribuer les rôles. Il faut aussi accepter de voir ceux qui sont légitimement candidats à ce rôle et en tenir compte.
Et dans le livre, Bertrand Badie, vous écrivez « Le système international est malade d'humiliation ».
Tout à fait, parce que nous sommes arrivés, c'est ça le grand paradoxe et le grand danger de notre époque, nous sommes arrivés à un moment où l'humiliation devient une pratique diplomatique banale, sans même que l'humiliateur ait conscience d'humilier les autres. Et ce système qui est déstructuré, qui a perdu en ordre, en organisation, en normes, peut-être en valeurs, devient une sorte de gigantesque concurrence pour le statut, pour l'acquisition du statut. Et cette concurrence, elle est belligène. Elle crée de la frustration et de la violence chez ceux que l'on relègue en seconde division. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, la guerre ne se fait plus entre les puissants, mais elle se fait à l'initiative des faibles, entre faibles ou de la part des faibles vers les puissants. C'est-à-dire que l'humiliation, du coup, se trouve d'autant plus importante dans le rôle qu'elle joue pour organiser le champ international. Il faut la surveiller.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons maintenant parler de la Russie, Bertrand Badi, de la Russie, de l'Ukraine et d'une inquiétude de l'OTAN, c'est le moins qu'on puisse dire. Explication mercredi d'Anastasia Becchio.
La Russie a massé des forces suffisantes aux frontières de l'Ukraine pour y mener une incursion rapide. C'est ce qu'estime le commandant en chef de l'Alliance Atlantique. Selon le général Philippe Bridlov, Moscou pourrait être tenté de créer un corridor terrestre vers la Crimée en faisant avancer ses troupes vers le port ukrainien d'Odessa sur la mer Noire, voire en poussant jusqu'à la Transnistrie, cette région séparatiste russophone de la Moldavie qui possède une frontière avec l'Ukraine. Selon les États-Unis, les Russes ont massé quelques 40 000 hommes appuyés par des avions et des hélicoptères aux portes de l'Ukraine. Or, pour le commandant en chef de l'OTAN, rien n'indique que ces troupes sont en train de rentrer dans leurs casernes. C'est pourtant ce qu'a assuré Vladimir Poutine à Angela Merkel lundi. L'inquiétude est partagée par le secrétaire général de l'OTAN qui prévient que si la Russie devait continuer d'intervenir en Ukraine, ce serait une faute historique qui entraînerait son isolement international. Pour autant, l'option militaire n'est pas à l'ordre du jour pour l'Alliance, selon Anders Fogh Rasmussen, qui espère qu'une solution politique et diplomatique sera trouvée. En attendant, les ministres des Affaires étrangères des 28 États membres ont demandé au commandement suprême de leur présenter d'ici deux semaines un plan de soutien aux alliés de l'Alliance en Europe de l'Est.
Suite d'une semaine d'actualité, il y a aujourd'hui des élections importantes en Afghanistan ce samedi. Donc, 8 candidats participent au premier tour de l'élection présidentielle qui désignera le successeur d'Hamid Karzai. Et les talibans ont tout fait pour perturber ce scrutin dans la violence. Mercredi encore à Kaboul, correspondance de Dubaï signée Nicolas Roper.
Un homme en uniforme militaire a réussi à s'approcher au plus près du ministère afghan de l'Intérieur, en plein milieu de la capitale, avant de se faire exploser. L'explosion a secoué les bâtiments aux alentours ainsi que les habitations, confie à RFI un témoin sur place. L'homme a, semble-t-il, passé plusieurs postes de contrôle avant de se faire repérer par les forces de l'ordre, confie Sédik Sédiki, le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Les talibans n'ont pas tardé à revendiquer l'attentat suicide. Les insurgés font tout pour tenter de perturber le scrutin présidentiel dont le premier tour a lieu ce samedi. En une semaine, ils ont attaqué par deux fois des bureaux de la commission électorale. Ils ont aussi pris pour cible une maison abritant des étrangers pour rendre le moins légitime possible cette élection présidentielle cruciale. Les forces afghanes ont lancé ces dernières semaines plusieurs offensives, notamment dans le sud et l'est, pour tenter de sécuriser le vote. Mais peu de chances pour que ces initiatives suffisent à éviter un bain de sang le jour du scrutin. Les talibans ont promis qu'ils s'en prendraient à tous ceux qui participent à l'élection, y compris aux électeurs.
J'ajoute un chiffre, en bref, dans notre résumé, selon le HCR, il y a désormais 1 million de réfugiés syriens au Liban, un pays qui compte un peu plus de 4 millions d'habitants. Il faut y ajouter un autre 1 million de réfugiés syriens répartis cette fois en Jordanie, en Égypte, en Irak et en Turquie. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Bertrand Badi. La Russie, on peut aussi parler d'une revanche de Poutine sur une forme d'humiliation
Très certainement. D'ailleurs, je me permets de dire que dans mon livre, qui a été écrit avant cette crise, je signalais la posture de la Russie comme relevant justement de cette idée d'humiliation. Pourquoi ? Parce que en 1989-91, quand l'URSS se décomposait et que la Russie venait à renaître de cette décomposition du système soviétique, au lieu de chercher comment intégrer ce nouveau pays, cet ancien empire, dans le jeu international, on a comme tracé un cordon sanitaire tout autour d'elle. Et malheureusement, on peut dire avec le recul que ce que l'on a fait entre 89 et 91 ressemblait envers la Russie à ce qu'on a fait à l'Allemagne en 1919, c'est-à-dire une sorte de paix de Versailles, cherchant à humilier, à rabaisser la Russie, au lieu de profiter de cette occasion pour définir les conditions d'un nouveau concert international. Vous savez, moi, dans mon métier, il y a quelque chose qui m'a toujours profondément frappé, c'est pourquoi on a perdu 10 ans, les années 90, et notamment les deux mandats de William Clinton, pour ne pas définir les règles du jeu d'un système international enfin mondialisé et enfin libéré de la confrontation des deux blocs.
Pourtant, son prédécesseur avait parlé de nouvel ordre mondial.
D'un nouvel ordre mondial, mais son prédécesseur a eu aussi une attitude étrange quand il s'est agi de délibérer sur l'avenir de l'OTAN alors que le pacte de Varsovie était dissous. Bush père a annoncé qu'il fallait maintenir l'OTAN. François Mitterrand, à l'époque, je le raconte dans mon livre, disant « Mais Vous voulez faire une nouvelle Sainte Alliance. Or, c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ce monde post-bipolaire a démarré sur une Sainte Alliance. Il y avait l'aristocratie de ceux qui en étaient, et puis il y avait autour les marginaux, les périphériques, ceux qui étaient là pour regarder les autres gouverner. Ce n'était pas possible. On ne pouvait pas attendre d'un pays qui avait été l'une des deux superpuissances de toute la période de la guerre froide, devenir le spectateur désengagé, si je puis me permettre l'expression, qui contemplait cette nouvelle Sainte Alliance. Ça, c'est une erreur profonde, et c'est une erreur que l'on doit essentiellement à l'administration américaine de l'époque. Je citais William Clinton, et sa secrétaire d'État, Madeleine Albright, qui était une femme issue de la guerre froide. La culture de la guerre froide a pris le dessus, donc la Russie a été humiliée. Poutine, c'est le profil même du leader populiste qui a su utiliser, capitaliser ce ressentiment du peuple russe pour rebâtir une puissance, d'où sa popularité qui est croissante en ce moment. C'est ça qui est terrible, n'est-ce pas ? Mais l'histoire a commencé en fait en 1999, au moment du Kosovo et de la fameuse opération aéroportée des troupes russes sur l'aéroport de Pristina, rappelez-vous, en juillet 99.
Bertrand Badi, l'Afghanistan, il faut croire à ces élections présidentielles dont le premier tour a lieu là aujourd'hui, dans la violence. Hein, je rappelle qu'il y a par exemple une photographe allemande qui a été tuée hier.
Vous savez, je crains que fondamentalement, l'Afghanistan, comme hélas d'autres pays dans le monde, soit devenu une société guerrière. Et une société guerrière, qu'est-ce que c'est ? C'est une société qui, à travers une guerre durable, crée un jeu social dans lequel beaucoup trouvent leur profit. L'Afghanistan est peuplé de seigneurs de la guerre, ces seigneurs de la guerre plus ou moins liés à tout un tas de circuits mafieux, trafiquants en tout genre. Tout ceci se combine sur un terreau social d'extrême pauvreté, je veux dire, tout ce qui a été dépensé pour l'Afghanistan depuis 20 ans n'a jamais profité ou de façon dérisoire au peuple afghan. Donc tous les ingrédients sont là pour que cette société guerrière persiste et que l'élection présidentielle devienne en fait un jeu interne à cette société guerrière, c'est-à-dire un moyen pour les seigneurs de la guerre de se mesurer les uns les autres. C'est une partie du tournoi. Je pense que on peut avoir peur de l'avenir proche et à moyen terme de ce pays extraordinaire par ailleurs.
Votre inquiétude porte aussi, Bertrand Badi, sur l'Égypte. Vous revenez d'Égypte. Vous l'avez échappé belle, on peut le dire d'ailleurs.
Et là, j'étais effectivement à la porte de l'université lorsque ces bombes ont explosé.
Il y a eu trois bombes qui ont explosé au Caire mercredi.
Alors, on ne sait pas exactement le bilan humain. Il se trouve que je passais là une minute près, effectivement. Mais j'ai trouvé cet événement tragique comme l'expression de, en même temps, des tensions énormes qu'il y a en Égypte en ce moment et de l'incertitude. On a l'impression de tout un peuple qui est l'un des plus anciens de la Terre, qui ne sait pas où il va, et cette dialectique de la violence et de la répression est la pire des choses, c'est-à-dire l'Égypte était entrée dans l'histoire de la démocratie avec la première élection présidentielle il y a maintenant presque 2 ans, elle en est sortie. Vous savez, quand on sort de quelque chose que l'on a commencé à bâtir, d'une part on ne sait pas quand on y retournera, et surtout il faut craindre que, pour rester en marge de cette histoire que l'on avait voulu, on soit obligé de dépenser des capitaux de violence et de répression. Ça me fait très très peur. Et ce qui me fait très très peur, c'est que parmi ces scénarios, il y a celui d'une dictature dure, mais il y a aussi celui d'une décomposition sociale forte. C'est-à-dire, c'est une société qui tombe dans cette incertitude absolue que les sociologues décrivaient lorsque il y avait plus d'objectifs communs, il n'y avait plus de valeurs communément partagées.
Et société, c'est un des mots-clés pour comprendre votre analyse des relations internationales. Bertrand Badi, au fil de vos livres, là, c'est l'humiliation des sociétés. Il y a une vie sociale entre les nations. Vous insistez là-dessus.
Il y a d'abord, et ça j'insiste beaucoup parce que c'est au centre de l'argument de mon livre, vous avez raison, il y a d'abord les sociétés dans la vie internationale. C'est-à-dire qu'on a trop tendance à considérer que la vie internationale, c'est de la diplomatie. Diplomatie interétatique, c'est d'abord des sociétés qui souffrent, qui désirent, qui reçoivent, qui subissent. Et aujourd'hui, le monde est ainsi fait, la communication, la technologie sont telles que tout cela s'exprime sur la scène internationale, il faut l'entendre.
On va en reparler dans la deuxième partie de l'émission, Bertrand Badi. On va se retrouver en effet dans 3 minutes, après un point sur l'actualité de ces dernières heures. À tout de suite donc.